bonjour à tous, à toutes les personnes que je n'ai pas saluées ce matin. J'aimerais faire une prière d'abord. Seigneur, je t'appelle, Saint-Esprit, je t'appelle. Je te demande vraiment d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre entendement et de voir à combien ta parole est magnifique. Combien, même quand on lit nos traductions en français, on en saisit que le dixième et encore. Mais combien chaque année, quand on relit les passages, c'est tellement merveilleux. Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui nous permet de te comprendre. Merci pour cette lettre d'amour que tu as faite pour nous. Amen. Nous sommes dans cette période de la résurrection, avec Jésus qui est ressuscité, et bientôt il y a l'ascension. Alors on parle beaucoup, beaucoup de la résurrection. On parle beaucoup de Jésus qui est ressuscité. Mais on réalise peu qu'il y a une autre résurrection qui existe. Et cette résurrection, c'est la nôtre. Je ne venais pas vous parler de notre résurrection lorsque nous arrivons au ciel et que nous allons retrouver tous nos bien-aimés et que nos bien-aimés vont nous retrouver. Je vous parle d'une résurrection ici et maintenant. Alors, Pavel, tu peux effectivement mettre le premier. Le thème d'aujourd'hui que je vous propose, c'est comment marcher dans un esprit de résurrection. Le mot « résurrection » peut nous parler au travers de bien des domaines. Concernant... Non, tu vas trop vite. Il va trop vite. Il est au taquet. Au travers de plein de domaines qui concernent pas seulement notre vie physique, quand on sort d'une maladie, par exemple, mais aussi de notre vie spirituelle. Ce mot vient du grec « resurgere », qui signifie « se relever ». Se lever une nouvelle fois. Il est la traduction du grec anastasis et en hébreu, il signifie un retour à la vie des morts. C'est-à-dire, on n'est plus mort, on est vivant. En hébreu. Alors maintenant, tu peux. Il y a beaucoup de synonymes. Je vous en ai mis quelques-uns. Renouveau, rénovation, réveil, régénération. Restauration, renaissance. Là, je vais surtout utiliser la restauration qui est, à mes yeux, le plus proche. Tu peux refermer, Pavel. On va visiter la restauration personnelle, spirituelle, qui nous fait revenir à la vie que Dieu a désirée pour chacun d'entre nous. Le départ de cette restauration personnelle commence par quelque chose qu'on ne peut pas échapper. C'est l'acceptation et la reconnaissance de Jésus en nous. Il faut reconnaître Jésus, accepter Jésus, vivre Jésus en nous pour commencer ce travail de résurrection. Et alors, petit à petit, de guérison en guérison, notre restauration ou résurrection avance et on progresse lentement mais sûrement jusqu'à devenir ce que Dieu avait comme plan au départ pour chacun d'entre nous. Il y a de nombreuses années en arrière, je vous avais parlé d'un homme qui me travaille énormément et en pensant à ce thème de la résurrection personnelle, j'ai su que je devais remettre le couvert, c'est-à-dire reparler de cet homme qui me travaille. Et en travaillant ce texte, en retravaillant ce texte et en re-retravaillant ce texte, je vous avoue que j'ai réalisé quelque chose. J'ai accouché définitivement. Il y a quelques années, c'était une ébauche et cette fois, c'est la fin. Donc, on va voir comment ça vous parlera. Et peut-être que certains se rappelleront de ce message. Il s'agit d'une destinée qui parle réellement à nous de la résurrection. Peut-être ne le réalisez-vous pas, mais dans la Bible, il y a énormément de personnes, hommes et femmes, qui en fait sont des miroirs pour notre propre vie personnelle. et ce monsieur en est un miroir. C'est comme si, quand on lit la Bible chaque année, je ne sais pas si vous lisez la Bible entièrement chaque année, mais enfin, moi, je le fais, cet exercice. Et parfois, je me dis, ah, je connais ça. D'autres fois, je me dis, oh, mais je n'avais pas vu que c'était comme ça. Et en fait, c'est nous qui évoluons, qui grandissons, qui maturons, et ça fait que chaque fois qu'on relit la Bible, on découvre de nouvelles choses. Et ça devient toujours plus, ça entre toujours plus profondément en nous. Parce que nous changeons. Alors l'histoire que nous allons découvrir se passe dans 1 Samuel 20. Elle commence dans 1 Samuel 20. Bonjour Siméon. Pour vous donner le cadre, pendant de très nombreuses années, il y a eu des conflits, vous ne l'ignorez pas, entre Saül et David. Jonathan, le fils de Saül, et David sont des amis à la vie, à la mort, et ils savent, d'une manière ou d'une autre, un des deux va vivre, l'autre va mourir. Alors ils se font une promesse. Ils se font cette promesse, celui qui va vivre va protéger la famille de celui qui va mourir. Et c'est une promesse qui n'est pas négligeable, parce que quand il y a des guerres, le vainqueur essaye d'éliminer tous les vaincus, par peur que les vaincus ne redeviennent des ennemis. Donc c'est vraiment une promesse importante. Et cette promesse, David et Jonathan l'ont fait dans 1 Samuel 20, les versets 14 et 15. Mais, et ça je l'ai découvert cette année dans mes relectures, j'ai découvert dans 1 Samuel 24, les versets 22 à 23, que Saül lui-même va demander à David de protéger sa famille lorsqu'il serait mort, afin de ne pas exterminer sa descendance. Donc, il y a deux promesses identiques qui auront été faites et par Saül et par David et Jonathan. Enfin, deux demandes. Alors, les conflits continuent. Vous n'ignorez pas qu'ils ont duré 15 ans. J'ai découvert que David a été roi à 15 ans et à 30 ans, il était roi. Ça veut dire que de sa 15e année à sa 30e année, ce brave jeune homme a vécu la guerre et a dû lutter. C'est impressionnant quand même, dans ses 15 ans. Donc il est roi. Alors il s'installe, il y a encore quelques ennemis à éliminer. Il faut d'abord vivre dans un lieu à la hauteur d'une royauté. Et brusquement, et on le lit dans 2 Samuel 9, le verset 1, David pose cette question. « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Cette phrase de l'Ancien Testament peut nous faire penser à la bonté de Dieu, qui par le sacrifice de son fils Jésus nous permet d'être sauvés et de vivre la promesse de la vie éternelle. Jésus, par sa mort à la croix, nous libère de tout péché et nous rend libres. Ça, vous le savez. Et dans son sacrifice, Jésus dit « Tout est accompli ». Et moi, je vais paraphraser. Jésus dit « Je l'ai fait pour tous et je n'ai oublié personne ». Alors, comme David demande « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y a un ancien serviteur de Saül qui va donner la réponse à David. Et là, on peut mettre le prochain. Voilà. C'est dans 2 Samuel 9, 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Oui, il y a encore un fils, Jonathan, mais il est perclus des pieds ou estropié. » Le roi lui dit, « Mais où est-il ? » Et Tsiba répond au roi, « Il est perclus, fils d'Amiel, à Lodebar. » L'hébreu est très riche. Je connais une personne dans cette salle qui peut lire la Bible en hébreu. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais j'en connais une. Il est très, très riche. Et ça nous apporte des ouvertures, ça nous montre à quel point notre Bible, quand on la lit en français, elle est petite. Et je suis toujours contente et heureuse de tomber sur des commentateurs qui m'ouvrent les yeux. Donc ce fils s'appelle Méphibosheth. Il est fils de Jonathan et petit-fils de Saül. On peut éteindre le PowerPoint. Et lui, il va aller de restauration en restauration en résurrection. Alors qu'il est très jeune, c'est la guerre. Et les enfants ont tous des nourrices. Et la nourrice de Méphibosheth va courir pour éviter les soldats, pour éviter qu'on les tue. Et malheureusement, dans sa précipitation, elle le laisse tomber. Et c'est ce qui fait que notre Méphibosheth a eu les deux jambes cassées. Et bien évidemment, au temps où ça se passe, elles n'ont pas été remises et donc il est estropié. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hébreu, le nom nourrice se dit omenet. Et ce mot signifie foi, la foi, ou amen. Donc, quand on dit amen, c'est un acte de foi. Ça veut dire je crois en ce qui vient de se dire ou je crois en ce que je dis. Est-ce que vous le faites par habitude ou est-ce que vous le réalisez que quand vous dites amen, je m'appuie sur cette parole? Elle a, malheureusement, elle a laissé tomber cet enfant. Ça veut dire que parfois, dans notre chemin de foi, on pourrait se dire, est-ce que Dieu m'a laissé tomber? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il n'est plus avec moi? On peut se poser cette question. Et parfois, on se la pose. Méphibosheth s'est caché dans un lieu qui s'appelle Lodebar. Et le nom de cette région signifie nulle part. Donc ce mot signifie nulle part, mais en hébreu, on peut l'orthographier autrement et il signifie celui qui n'a pas encore parlé. Ça veut dire que du nulle part peut sortir quelque chose. Et moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont été en souffrance à cause du passé, à cause de parents qui n'étaient pas à la hauteur, à cause de maladies, à cause de choses qui les ont atteints alors que d'autres, ça ne les toucherait même pas et qui n'arrivent pas à se relever. Ils sont dans le Lodebar, dans le nulle part. Moi-même, et personnellement, avant de rencontrer Jésus, j'étais dans ce Lodebar parce que ma vie, c'était la haine du juif, la haine du noir, une famille dysfonctionnelle et le rejet à l'école complet à cause de toutes ces étiquettes, dirais-je. Donc, comme on le dit en psychologie, je ne vivais pas, je survivais. Survivre, c'est être dans le nulle part. Je vivais sans vivre réellement. Et vous savez, beaucoup, beaucoup de personnes peuvent survivre tout en se mariant, en faisant des études, en ayant des enfants. Ils vivent sans vivre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment impressionnant. On rigole, mais on ne rigole pas du cœur. On parle, mais on ne parle pas du cœur. Il y a quelque chose qui... On fait les choses parce qu'il faut les faire, mais ça s'arrête là. Ça s'appelle survivre. Et quand j'ai rencontré Jésus, quand nous nous sommes rencontrés, dirais-je, ça a été vraiment un chamboulement total. Parce que j'ai commencé à vivre. Ce n'est pas la même chose. J'ai commencé à vivre et j'ai commencé à guérir par petites touches toutes les choses qui ont fait mal, toutes les choses qui m'avaient anéanti, toutes les choses qui avaient besoin de guérison. Et donc, je suis entrée dans ce chemin de résurrection. Ça prend du temps. Mais le temps et Dieu, c'est des choses qui ne comptent pas. Lui, il a une autre notion du temps. Et par Jésus, je peux proclamer que je suis guérie, libérée et que je continue encore. Et si seulement on pouvait le réaliser. C'est ce chemin de guérison, de résurrection que Jésus nous offre. Parce que lui, il est mort pour nous l'offrir. Rien dans la vie de Méphibosheth pouvait croire qu'il allait survivre. Il était dans la honte, il était dans le rejet, en plus il était handicapé. Et en hébreu, Mephibosheth peut aussi signifier dissiper la honte. C'est riche, non ? Ce perclus des pieds qui pouvait presque pas marcher, enfin il marchait avec des cannes, allait pouvoir dissiper la honte qui avait été jetée sur lui. Et j'aimerais vous dire que nous sommes ou nous pouvons être ou nous avons été tous des méphibochettes, des inutiles, des cabossés de la vie, des peureux, des survivants. Mais avec Dieu qui dit que nous sommes des créatures merveilleuses, nous pouvons nous prendre en main, nous pouvons ressusciter, nous restaurer, nous régénérer, c'est-à-dire renaître en Christ. Nous ressemblons aussi à Mephibosheth par rapport à nos familles. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. J'ai mis un certain temps à comprendre. Parce que la Bible nous dit que par la filiation, on fait partie de la famille opposée à Dieu. Plus clairement, Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens, dans le chapitre 15, il dit « La chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu ». Ça veut dire que notre naissance naturelle ne nous fait pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut une famille spirituelle pour entrer dans la famille de Dieu et non une naissance physique. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dit à Nicodème. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui est Nicodème, ce théologien, ce docteur de la loi, l'un des plus grands personnages du temps de Jésus et qui connaissait, j'ose dire, le catéchisme sur le bout du doigt. Cet homme avait suivi toute la filière de la religion israélite. Et pourtant, Jésus lui dit, « Nicodème, il te faut naître de nouveau, si tu veux. » Être un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous trouvez ce passage dans Jean 3, verset 3. C'est facile à se rappeler, hein, 3 à 3. Alors, tant que nous n'aurons pas expérimenté cette nouvelle naissance, que j'appellerais renaissance ou résurrection, et que nous ne nous resterons pas, que nous ne buvons pas à la source divine qu'est la Bible, nous resterons dans la famille éloignée de Dieu. Heureusement, Jésus, par son sacrifice, nous permet d'entrer dans cette famille. Si, bien sûr, et je me permets de me répéter, nous le recevons dans notre cœur. En recevant le salut que Dieu nous offre par Jésus, nous entrons dans cette famille spirituelle. Et comme Mephibosheth, qui est invité à rester tous les jours à la table de David, lui, le handicapé, le perdu, qui vient de nulle part, est entré dans la famille royale de David. Et il est devenu son fils. Et par extension, nous sommes appelés à cette même destinée, à devenir des filles et des fils du roi et à manger chaque jour à sa table. Mais, et là on peut mettre le prochain slide, nous sommes des boiteux spirituel. C'est une image. Mephibosheth est l'image de notre nature charnelle, tant qu'il n'a pas été reçu par David. Et nous vivons souvent ce que l'expérience, que l'apôtre Paul nous dit, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et quand je veux faire le mal est attaché à moi. » On est tous logés à cette enseigne. Alors, comment faire ? Le prophète Élie, d'ailleurs, dit « Mais quand clocherez-vous des deux pieds ?» Alors, heureusement, lorsqu'on a Jésus en nous, on reçoit quelqu'un d'autre aussi en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, si on l'écoute, on arrive petit à petit, pas à pas, step by step, à claudiquer au clocher des deux pieds un petit peu moins. On ne devient pas parfait, mais on réalise que ça, ce n'est pas bien, et on demande pardon, et on ne le fait plus, et après, c'est la prochaine étape, ensuite la prochaine étape, et ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas que des boiteux, et là, on peut mettre le slide suivant, nous vivons dans la peur. Mephibosheth vivait dans la peur et il s'est enfui dans le nulle part. Mais l'homme n'a pas été fait pour la peur. Nous avons été créés pour l'amour de Dieu et de vivre l'amour de Dieu. Seulement voilà, Adam et Ève ont transgressé la loi et à partir de là, et c'est pas loin dans la Bible, hein, c'est tout au début, la peur a régné. Que se passe-t-il? Ils se cachent de Dieu et ils disent on avait peur. L'homme met sa peur dans tous les compartiments de sa vie. Peur de l'orage, de l'obscurité, du passé, du lendemain, du travail, sa santé, son argent, sa mort. Il porte la peur en lui. Alors, rappelons-nous qu'en Jésus, nous avons la résurrection, le renouveau, et quand on se le dit et on se le redit et on le travaille, cette peur, elle disparaît petit à petit et il y a cette confiance en Dieu qui nous permet d'avoir de moins en moins peur. On peut fermer le slide. Et la deuxième partie de la vie de Mephibosheth est bien sûr totalement différente. Et c'est David qui en a pris les initiatives. Et le fait de voir que David prend cette initiative, c'est comme Dieu qui prend l'initiative de nous sauver. C'est lui qui vient vers nous, à nous de l'accueillir ou pas. Mais c'est lui qui prend l'initiative. Et après, si on le laisse faire, c'est lui qui nous restaure. Dieu est à l'origine de notre salut et il a fait le nécessaire pour que nous puissions être restaurés. Il en a payé le prix à la croix. David cherchait le fils Mephibosheth et Mephibosheth cherchait à fuir David. Et souvent, ce qui nous concerne, Dieu nous cherche et nous, on a peur qu'il nous trouve. Avouons-le, ça nous arrive. Alors que si on accepte d'être trouvé, on peut prendre ce chemin de restauration et de résurrection. David permet à Mephibosheth de vivre un changement radical. Et qu'est-ce qu'il lui dit, David? Alors, c'est le slide suivant. Ils ont des problèmes, ils n'ont plus la télécommande, je crois. Dans 2 Samuel 9, 7, David dit « Ne crains pas ». Car je veux faire du bien à cause de Jonathan, ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il y a plusieurs promesses là-dedans. Hein? Ne pas avoir peur, recevoir tout ce qu'on nous a volé, et manger tous les jours à la table de Jésus. Et je me permets de paraphraser ce passage en disant, Jésus nous dit, ne crains pas, je veux te libérer à cause de mon Père et je vais te rendre tout ce que Satan t'a volé et tu mangeras tous les jours à ma table. On peut refermer le slide. En nous réclamant de Jésus, nous sommes accueillis par Dieu. Et c'est ça le salut. Comme le dit Paul, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais comment être devant ce Dieu si grand? Comment aller devant lui? Eh bien, comme Mephibosheth. Il est arrivé devant David, il s'est mis par terre et puis il a dit, mais qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le chien est l'animal le plus haï et le plus rejeté des Israélites, plus que le cochon. Donc vraiment, il dit, je suis un moins que rien, je ne vaux rien. Il dit ça à David. Et c'est un peu ce qui nous arrive, en tout cas moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai rencontré Jésus. Mais qui suis-je pour que tu viennes vers moi? C'est tout un chemin de repentance. Et c'est important, cette repentance. On ne va pas venir avec notre sac de péché en disant à Jésus de manière glorieuse et fière, « Regarde tous mes péchés !» Non, on va demander pardon. Et le fils prodigue, dans la célèbre parabole de Luc, dit aussi « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils parce que j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et Dieu dit « Ne crains pas. » Dieu ne nous sauve pas seulement pour nous sauver, il nous sauve pour rétablir une nouvelle relation avec nous parce qu'elle était perdue. Il aimerait que nous entrions avec lui dans une communion intime avec lui. C'est toujours ça le chemin de restauration et de résurrection. David dit « ne crains rien ». Il rassure Méphibosheth. Est-ce que vous saviez ou est-ce que vous vous rappeliez que j'avais dit une fois que le mot « ne crains rien » ou toute expression un peu similaire se rencontre 366 fois dans la Bible ? Un jour par année, tous les jours de l'année, y compris les années bissextiles, 366 fois, il nous est dit « ne crains pas ». Alors, ne craignons pas, faisons la paix avec lui. Et même si certaines circonstances sont parfois à craindre, le Seigneur dit « ne crains pas, je suis avec toi tous les jours ». Voilà ce chemin de restauration. Dieu apaise nos craintes comme David apaise les craintes de Méphibosheth. Et il rétablit Méphibosheth qui redevient un prince et il nous rétablit, nous redevons fils et filles du roi. Dans les racines hébraïques, le mot boiteux, qui est le mot de Méphibosheth, peut aussi désigner celui qui saute par-dessus. J'ai trouvé ça assez bizarre quand j'ai lu ce commentaire. J'ai dit, le boiteux a déjà besoin de ses cannes pour marcher, j'en sais quelque chose, moi j'ai besoin de cannes pour marcher. Comment est-ce que je vais sauter par-dessus ? Vous connaissez l'expression « sauter par-dessus » ? « Pass over », c'est la Pâque. Méphibosheth nous parle déjà de la Pâque. Il saute par-dessus. C'est le chemin de la mort vers la restauration. C'est le chemin de la mort vers la résurrection, alors qu'il est boiteux et qu'il marche avec des cannes. Jésus nous rejoint dans toutes nos situations. Il est mort à la croix et ressuscité. Et nous pouvons tous être transfigurés, restaurés et recevoir l'éternité et manger chaque jour à sa table. C'est ce que Méphibosheth nous raconte et c'est ce que la Pâque nous raconte. Ancienne alliance, nouvelle alliance, c'est la même histoire. Nous sommes appelés à vivre et invités au repas des noces, comme le dit la parabole de Luc dans Luc 14, 21, c'est-à-dire de participer à ce banquet pour l'éternité. Je vous avoue que je me réjouis. J'aime bien manger, j'aime bien la bonne nourriture, et je me réjouis de participer à ce banquet. Mais je n'oublie pas que je peux en profiter déjà ici et maintenant. L'histoire de Méphibosheth s'adresse à tous les handicapés du corps et du cœur que nous sommes. Et Dieu nous fait cette offre incroyable d'un nouveau départ qui est possible. Nous pouvons renaître, ressusciter en une nouvelle personne restaurée, marcher dans un esprit de résurrection. Et pour que nous l'oublions jamais, là c'est le dernier slide, je vous donne un autre passage de la Bible, dans Ésaïe 61, verset 1, ou Luc 4, 18. Les deux passages sont identiques. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. » Et nous sommes souvent des désespérés. « Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais. » Est-ce que vous vous sentez libre ? Et de dire aux prisonniers que leurs cachots sont ouverts. Est-ce que vous réalisez que nos prisons sont ouvertes, qu'on a le libre accès à Dieu par Jésus ? En Jésus, nous sommes tous des ressuscités, des hommes et des femmes libres. Il n'y a plus de cachots et Jésus est notre chemin, notre vérité et notre vie. Alors, je vous appelle à accepter cette offre que Dieu nous donne par Jésus et d'avancer dans ce chemin de résurrection. Amen.